Gardez les yeux ouverts. Une émission socioculturelle proposée et réalisée par Stéphanie Andrès. Tous les mercredis et samedis, entre 17 et 18 heures, et en rediffusion pendant un mois. À réécouter en podcast sur le site de radioquipique.org. K-I-P-I-K.
Aujourd'hui, je vous emmène à Barcelone. C'est ma ville, mon amour, celle qui m'a fait palpiter et que je porte dans le cœur comme un oiseau endormi. J'y ai vécu il y a longtemps, j'avais 20 ans. Pendant ce temps, elle a grandi, changé, évolué. Je pars aujourd'hui à la rencontre de Catalans et d'expatriés qui la connaissent pour qu'ils me livrent leur version colorée ou noir et blanc de cette ville. Mon séjour a commencé avec une conjonctivite et une extinction de voix, comme si rien ne suffirait à la résumer, à la définir. Ni la vue, ni le son, peut-être juste à travers son âme. Est-ce que tu as l'impression que Barcelone est masculin ou féminin ?
Ah, waouh !
Pour toi ?
J'aurais plutôt tendance à dire féminin, mais parce que j'ai plutôt tendance à aller vers tout ce qui est féminin. Enfin, je sais pas. Mais en plus, pour moi, c'est quand même ma ville maternelle, donc il y a ce côté aussi...
Oui, puis on entend le A de Barcelone. C'est une question que je me suis... Enfin, moi, je la sens féminine.
Aussi.
Et je me suis posé la question, pourquoi ? Okay. Bon, alors il y a le A Barcelone. Par exemple, Berlin, pour moi, c'est masculin.
Oui, c'est vrai. Trop réfléchi au genre des villes. Elle pourrait être aussi trans, un peu Barcelone, parce qu'elle a un côté folklore.
Ouais, c'est ça, elle pourrait être trans, c'est ça, c'est vrai. Et je cherche le nom d'un artiste que j'ai découvert à Barcelone, et lui, il avait travaillé sur le mariage fictif de Christophe Colomb,
okay.
Donc, la statue, tu vois,
ouais.
Avec la statue de la liberté, à l'autre bout.
Aux États-Unis ?
Ouais.
Ok.
Et donc, toute son œuvre, elle est. Antonio Miralda.
Okay.
Tu notais Suena.
Non.
Et tu vas voir, c'est un mec qui fait des installations. Donc, il a fait les anneaux de mariage à la mesure
de la statue.
Des personnages. Il a fait le brunch en plein désert avec des cadillacs, avec des petits toasts, mais pour eux.
Okay.
Il a exposé leurs vêtements de mariage sur des gratte-ciels à New York. Le mec, il est fou, quoi. Et tu vois, voilà, dans son œuvre...
C'était la
femme, c'était la statue de la liberté, et Christophe Colomb, c'est un homme.
Ouais. Après, il y a les patronnes de Barcelone, enfin, il y a la Marseille.
Ah, les fêtes.
Les fêtes, et c'est quand même
femme.
Et avant, c'était Santa Eulalia,
ouais.
L'autre patronne de Barcelone, mais ils ont changé. C'est pour ça qu'ils disent qu'il pleut tout le temps à la Marseille.
Ah, d'accord.
C'est parce que Santa Eulalia, elle pleure.
Ah, c'est beau, ça.
Ouais.
Mais ouais, il y a toutes les... Au niveau de la religion, les croyances. Quand tu dis les patronnes, c'est elles qu'on voit, tu sais, dans la fête des géants ?
Non. Je ne sais pas exactement. Les géants, il y a toujours un couple par ville. Quand il y a les fêtes de village, il y a le couple de la ville et on ramène en fait les géants des autres villes.
Ah, d'accord.
Et je pense que dans Barcelone, ça doit être les géants des quartiers.
D'accord. Parce qu'en fait, dans tous les quartiers, il y a la fête del barrio.
Oui, c'est vrai.
Et ça peut durer, ça dure longtemps en fait, ça dure même presque toute l'année parce qu'ils préparent, la fête en elle-même elle va durer quoi, 15 jours,
une semaine
de chaque quartier. Mais après, quand c'est fini, donc il y a des concours de meilleures rues décorées.
Oui, ça c'est Gracia surtout.
Ah ouais, ça c'est Gracia.
Ouais,
ouais.
C'est un peu la fête.
Ah, il y a des décors de malade,
ouais.
Alors, tu reconnais plus les rues, là, parce que le plafond, en fait, entre les immeubles, c'est décoré.
Oui, comme
décoré.
C'est assez étroit, il y a tout qui est décoré. Quoi.
Ouais, c'est ça, les murs, le parterre, avec des thèmes.
Oui, on se croirait dans des plateaux.
C'est génial.
Dans des plateaux télé.
Ouais, c'est ça, des plateaux télé. Et ça, tu vois, c'est la Barcelone trans,
oui,
je
voilà.
pense. Et du coup, après, quand le concours, il est gagné... Ils vont passer toute l'année à repenser le décor pour l'année prochaine.
L'année prochaine, oui, ça dure tout le temps.
Et ce qui m'avait marqué, c'est qu'il y a des casals, donc des centres...
C'est des centres culturels de quartier.
Enfin, des salles d'activité.
Oui. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas ça en France.
Mais moi, je n'ai pas retrouvé ça en France. Et donc, ces salles de quartier, il y a toutes les générations qui se mélangent, quoi.
Oui.
Les enfants, les yayas, les grands-mères qui aident à faire les fleurs, la décoration qui est prévue pour la fête l'année d'après, quoi.
C'est des espaces associatifs.
Ouais, c'est ça, espaces associatifs.
Ouais.
Alors, c'est vrai qu'on est un peu plus sérieux, comme tu disais, en France, sur ce thème-là. C'est plutôt, on va consacrer un budget. Oui. Tu vois, je vois aux feux d'artifice ou aux fêtes en France, on ne crée pas du lien comme
lien social,
là-bas en Espagne. Ouais.
Comme il fait plus beau, les gens ont plus tendance à être à l'extérieur, alors qu'en France, c'est plutôt peut-être une tendance à être plus chez soi. Il y a moins de bars aussi en France. Ouais. Ouais, là, quand je suis arrivée avec ma mère, elle s'installe en ce moment. Je sais pas, on était à Saint-Giraud. C'est... Mais oui, mais moi, je veux un endroit à côté de chez moi pour le café. Je comprends pas.
Alors, il faut le créer.
Je dis oui, mais on n'est pas à Barcelone. Il n'y a pas des cafés à tous les coins.
Ah non, mais c'est vrai qu'il y a une quantité phénoménale de bars. Et moi, je me suis demandé... Enfin, c'est vrai que tous les soirs, les gens, ils vont manger des tapas. Ils vont manger dehors, souvent.
Oui.
Ils ne s'invitent pas chez eux.
Non,
c'est
ils
rare.
Vont dehors.
Ils vont manger, ils se donnent rendez-vous, ils vont manger ensemble à l'extérieur. Mais c'est un coût, quand même.
Bah, ça a un coût, mais en fait, c'est pour ça que c'est aussi moins cher là-bas de boire une... À l'époque, j'habitais, c'était... tu trouvais souvent des bars avec des bières à 1 euro.
Ah, c'est ça.
Les tapas, c'est pas très cher. C'est vrai que si tu fais tout un repas, d'acheter le... c'est toujours un peu plus cher de manger dehors. Mais il y a un niveau de vie qui permet ce... Moi, j'ai des amis qui mangent que dehors.
Mais c'est moi aussi, j'ai des amis qui mangent pas bien beaucoup dehors. Et je me suis dit, oulala, mais moi, je...
Après, c'est vrai que maintenant, Barcelone, c'est hyper cher et que du coup, ça choque un peu.
Moi, j'ai réussi quand même à manger un curry poulet pour 10 euros avec un verre de vin. Voilà, c'est quand même pas mal. Alors, super bon, mais j'ai enregistré le son des décibels dans le bar. Incroyable, incroyable. Marga, elle revenait d'Allemagne où il n'y avait pas un bruit dans le bar. Et là, c'était... Mais on ne pouvait pas se parler. C'est intense, hein. D'ailleurs, elle a mis des bouchons dans les oreilles, Marga.
Ah oui. Au début, quand j'allais en France, j'allais souvent dans les marchés parce que ça me manquait les gens qui crient.
On se sent plus vivant, non, quand il y a du son?
Peut-être, ouais. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me rassure, le brouhaha un peu.
Ouais, c'est la vie autour de toi, quoi.
C'est vrai que quand j'ai des amis français qui viennent à Barcelone, qu'on est dans un bar, ils disent « Ah, les oreilles !» Ils te font « Bon, moi, je... »
Et toi, tu trouves ça... Ouais, c'est convivial, quoi.
Ouais.
C'est,
Moi, j'aime bien.
Pourtant, tu parles tout doucement.
Oui. Et en plus, je cherche des endroits calmes dans la ville. Mais...
On est plein de contradictions. Ouais. Merci, Célia. Ouais.
J'ai rendez-vous avec Karim pendant l'heure du déjeuner. En allant à sa rencontre, près d'une poubelle, une multitude de cartes avec des colombes blanches. J'en ramasse une. Je la retourne, c'est un avis de décès. Ce qui nous rassemble, avec Karim, c'est la France. Et Anna, la mère de ses deux filles. Anna, c'est l'amie de Marga, et mon amie. Elle est décédée il y a 6 ans d'un cancer du sein. Vous ne la voyez pas, mais elle est présente.
Là, t'es employée dans cette librairie.
J'ai laissé la librairie que j'avais dans mon quartier, Maragall, la librairie à Bosch. J'y ai travaillé 23 ans et 15 ans comme gérant. Puis là, depuis 6 mois, je travaille à la librairie française, dans la calle Valencia, entre Brook et Roger de Llúria, à côté de la floristeria Navarro. Elle est super connue à Barcelone.
Et toi, Karim, ça fait combien de temps que tu t'es installé à Barcelone, en fait ?
Alors moi, je me suis installé en 97. Ça fait 28 ans maintenant. Ouais. Ça fera, en fait, l'année prochaine, j'ai calculé, l'année prochaine, j'aurai vécu autant de temps à Barcelone qu'à Paris.
Ah, t'es au milieu du chemin ?
Ouais, là, je suis, ouais.
C'est quoi qui t'a amené ici? Est-ce que c'est toi qui as choisi Barcelone? Ou est-ce que c'est Barcelone qui t'a choisi?
On avait un projet artistique, on est venu à Barcelone en 93, et là c'est là que j'ai découvert la ville. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est bien.
Donc t'étais à Paris, tu m'as dit?
J'étais à Paris, ouais, et en fait quand on est à Paris, on a l'impression qu'en fait, on se demande ce que font les gens qui n'habitent pas à Paris. Quoi. C'est très parisien, c'est terrible.
C'est le centre du monde.
Je me dis, ouais, voilà, quoi. Je me dis, mais attends, mais comment ils font les gens quand ils habitent en province? Mais c'est stupide, je sais.
Tu faisais partie de ces gens-là.
Mais à l'époque, on pensait comme ça, quoi. Et après, c'est une grande ville comme ça, au bord de la mer, c'est comment c'est ça. Il a fallu que je vienne ici pour me rendre compte qu'en fait, les gens vivent très bien, qu'il y a plus de 2000 ans d'histoire et que je suis venu avec une troupe de théâtre.
Ouais.
Et donc on a passé 2 semaines ici. Quand tu viens en vacances, tu es tout énervé. Ouais. Moi, je disais, moi, je suis venu par amour et je suis resté par amour.
Ah.
Ça, c'est le...
Ça, tu vois, moi, ce qui me titille, là, c'est de savoir c'est quoi qui définit le moment où tu prends la décision de t'installer quelque part. Parce que moi aussi, je me rappelle cette force extérieure qui m'a appelée à venir là. Et c'était un peu le questionnement que j'avais de, tiens, un Français, quand il s'installe ici, c'est quoi les autres raisons?
Il y a beaucoup de Français qui viennent ici, d'abord pour le climat, parce que c'est une ville en bord de mer, parce que...
La culture,
parce que c'est moins agressif que... Pour un Parisien, ici, c'est un peu le paradis, en fait.
Ben ouais, parce qu'il y a la vie dehors, c'est le climat. Hein.
Et surtout quand tu te rends compte que finalement tu peux vivre ici, travailler ici. Parce que Parisien, en fait, il a vraiment l'impression que tu ne peux pas vivre en dehors de Paris. Parce qu'on vit à Paris parce qu'il y a du travail, parce que c'est le centre du monde, parce qu'il y a plein de choses. Moi, j'ai des amis qui me disaient, ouais, mais à Paris, on a 200 cinémas, vous en avez combien, vous? Ils font des rankings de tout.
Ouais, allez.
Mira, yo voudrais... Les carchofas, un plat d'aquest de flor de carchofa i
sí.
Una copa. Així.
De vi?
No, de cervesa. Jo.
Vale, perfecte.
Jo, endívies, brasejades.
Sí.
I agua normal, agua sin gas. Por favor. Oui, tu disais que on a quantité de cinéma.
Voilà.
Si
un
vous
Parisien,
en avez combien,
se rend compte que ici, tu peux vivre très bien et qu'il y a du travail, bon, comme c'est comme partout. Hein. Et que finalement, tu prends le métro, les gens ils sont moins stressés qu'à Paris.
Ah, mais c'est clair.
Tu vas en métro à la plage.
C'est ça.
C'est marrant parce qu'il y a des espèces de mythes comme ça à Paris. C'est ça, c'est genre, ah, tu vas en métro à la plage. Ça c'est...
Tu vas en tongue au travail.
Ça, c'est pour les Français, c'est waouh.
Il y a aussi les horaires. Bon, moi, je suis restée toujours à des horaires un peu français parce que à midi, j'avais la dalle. Mais j'avais l'impression d'avoir 2 jours dans une journée. En fait. C'est ça, le matin, on déjeune un peu consistant, là, vers 10h. Et on ne mange pas avant 2h, 3h. Ouais. Après, toi, tu reprends le boulot à 4h jusqu'à 20h.
Ouais.
Et c'est ça. Et après, là,
et surtout après, tu as aussi le temps de... Tu sors du boulot, il se passe des choses.
Gracias.
Voilà, par exemple, ma sœur qui habite ici depuis 10 ans maintenant, elle se sent tranquille dans les transports en commun. Pour pas choquer, on va dire, les jeunes filles ou les femmes. C'est vrai que pour elle, c'est beaucoup plus tranquille ici qu'à Paris. Il y a plein de choses qui font que les gens, les Français qui viennent ici, en général, ils sont agréablement surpris.
Il y a une qualité de vie humaine aussi. Et puis ces espaces, il y a énormément d'art dans les rues. Et tant mieux, parce qu'il fait super chaud l'été. Et voilà, c'est un côté pratique.
Ouais, il n'y a pas beaucoup d'espace vert non plus, parce que c'est une ville très dense. Que tu as Collserola d'un côté, tu as la mer de l'autre.
Il y a Parc de la Ciutadella.
Des parcs,
et puis tu as toutes les Ramblas.
Et puis tu as plein de bancs partout. C'est ce qu'on disait qu'on est arrivé ici, en fait. En fait, les gens, ils vivent beaucoup dehors.
Ouais, tu peux t'asseoir, discuter dehors.
Ouais.
À Paris, tu ne te poses pas sur un banc pour discuter avec un pote. Hein. Enfin, je ne crois pas.
Ouais, c'est autre
chose. Ouais, du coup, quand tu es arrivé là...
Bon, quand je suis arrivé là,
t'as
donc
connu
après,
Anna,
c'est vrai que je suis tombé amoureux.
Ici?
Non. Ouais, j'ai connu Anna ici.
Voilà.
D'abord, je suis tombé amoureux donc d'une Catalane, donc. Après, je suis revenu régulièrement. Après, j'ai décidé de m'installer ici.
Ça a mis du temps, ça, cette transition-là.
J'ai mis 2 ans avant de venir m'installer ici. Après, au bout d'un an et puis 6 mois de crise, après on s'est séparés. Ensuite, j'ai failli revenir. Après, je me suis dit, bah non, en fait, j'ai envie de m'installer ici. Donc, c'est pas parce que, ça s'est bien passé avec cette personne que je dois je me suis un peu rebellé contre moi-même, tu vois. Je me suis dit, c'est pas possible que mon envie de partir se résume à une relation. J'ai bien envie au moins de, que ça se passe bien ici. Essayer de m'en sortir ici, c'était un peu mon truc. Et après, je verrai si vraiment j'ai envie de rester. Puis finalement, c'est vrai que j'ai connu Anna, la mère de mes deux filles. Et puis voilà, finalement, voilà, je suis resté. Donc je sais pas si vraiment oui, je serais resté si j'avais pas. Si j'étais
ouais,
pas.
Enfin, t'es quand même revenu tout seul. Donc t'es revenu, c'était ton propre, après, ta propre volonté. Voilà, et voilà, après, t'as ouais. rencontré Anna et là, voilà, vous avez les enfants.
Dit, ouais, non, là, c'est bon. Je me suis dit, ouais. C'est... Et après, quand t'as des enfants. Là, par contre, pour l'éducation, je pense que c'est beaucoup mieux ici. Quoi. Ouais, ouais. Je ne sais pas comment ça se passe. Si tu habites à Narbonne, comment ça se passe pour l'éducation de tes enfants, je ne sais
voilà,
pas.
Ouais. Il y a Toulouse, super. Tu vois, moi, Toulouse. Je suis pas loin de Toulouse.
Toulouse, c'est la ville la plus
c'est
semblable
petite ville,
à Barcelone,
ouais, c'est exactement. C'est exactement ce que je ressens.
Non, complètement.
Les gens, ils se mettent au bord de la voilà. Garonne, ouais. Ils vont manger une glace. Il y a, le soir, ça, tous les cafés sont ouverts. C'est chouette, Toulouse.
Toulouse, c'est chouette, j'aime beaucoup. Mm. Paris, pourtant j'ai toute ma famille. La seule chose maintenant qui me rattache à Paris, c'est ma famille en fait. Mm. La famille de ma mère.
Mais du coup, toi, dans ton corps, tu te sens. Enfin, s'il fallait choisir, mais on peut ne pas choisir. Tu te sens plus catalan, plus castillan, plus français ou tout en même temps? Comment tu.
Bah,
comment
c'est
tu...
une très bonne question. C'est une très bonne question. Bah, moi, déjà d'emblée, moi, je suis français. D'origine kabyle, donc j'ai une partie de moi qui est kabyle aussi, mais mes quatre grands-parents sont kabyles en fait. Donc on va attendre pour.
D'accord, on va laisser passer les valises, le camion.
C'est ceux qui font la livraison des fruits et légumes voilà. dans la zone.
T'es kabyle, mais t'es né à Paris.
Non, moi je suis né à Paris et je suis culture française, je veux dire, il n'y a pas de. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours une partie de moi qui n'est pas vraiment 100% de. Moi, je me sens très français, catalan, pas trop, non. Même si j'aime beaucoup la culture catalane. Mes filles sont catalanes. Beaucoup de mes amis sont catalans et on a beaucoup de choses. Moi, j'aime bien, en fait, quelque part, chercher les points communs qu'on a tous, en fait, finalement.
C'est très français, c'est aussi la comparaison. On ne peut pas s'empêcher de. C'est une critique, c'est des différences qui ne sont voilà, pas bonnes. Alors qu'on a des similitudes.
C'est la Méditerranée, on a beaucoup de choses en commun.
Là, ça, c'est. Voilà. On peut avoir pain cantomaté, c'est possible? Super. Tu me posais la question tout à l'heure, moi, comment je suis arrivée à.
Ah oui, comment tu as connu Marga?
Comment je suis arrivée ici? Moi, j'ai mes deux grands-parents qui sont espagnols, mais du côté de Burgos, tu vois. Ah, pas,
Castilla.
J'avais étudié l'espagnol à l'école et je me suis dit, tiens, j'habitais Paris, j'ai envie d'aller voir un peu mes racines et puis vivre dans un pays étranger, quoi.
Ouais.
Et je suis arrivée là, en fait, je ne savais même pas qu'on parlait catalan.
Ah ouais.
La honte. Je pense que nos profs d'espagnol, ils n'avaient pas trop mis l'accent là-dessus.
D'accord, ouais.
Donc j'arrive et je me dis, mais c'est marrant, je comprends rien du tout ce qui se parle là. Ah, donc au bout d'un moment, j'ai compris qu'il y avait carrément une autre langue, une autre culture, que c'était un autre pays, quoi, du reste de l'Espagne. Bref, donc au début, j'ai rencontré. C'est pas par le plus grand des hasards, parce que je pense que c'était vraiment écrit dans mon histoire. Sur le port, un soir, je rencontre quelqu'un qui m'a emmené dans l'appartement où j'allais vivre un an et demi avec cette amie quoi, que j'ai rencontrée. Donc j'ai débarqué, c'était un peu l'auberge espagnole, tu vois,
ouais.
Le film.
C'est où le.
Alors ça, c'était Nau de la Rambla.
Ah, Nau de la Rambla, oui.
Ouais, c'était génial, quoi. Chacun ramenait à manger du pueblo, parce que j'avais deux potes qui habitaient à Lleida.
Ah, bien.
Chacun avait ses horaires de travail, on se faisait des pique-niques à Montjuïc le midi, le soir on sortait, on allait voir des concerts, j'ai fait des trucs artistiques. J'ai participé à El Rorate, c'était un concert de toutes les églises du vieux quartier.
Ah.
Et donc pendant un an, on a répété sur des bols pour le jour J, au moment de Pâques, faire sonner toutes les cloches des églises.
Ah ouais.
Et ça a été vraiment grandiose, hein. C'était un souvenir... Et du coup, Marga, ben, c'était une copine qui venait manger avec nous, tout ça. Et à un moment donné, on s'est dit, ah, il y a trop de monde là, on a envie de prendre un appart toutes les deux. Donc,
ah ouais,
on a repris un appart, Calle Concordia, vers le Poble Sec. Et je me suis retrouvée avec Marga et Christina, je ne sais pas si tu l'as connue. Du coup, Marga, on s'est retrouvés dans cet appart-là. Et on est restés en contact
bah ouais, parce qu'après,
toute
qu'on...
notre vie, quoi.
De menos la cama revuelta, ese zumo de naranja. estás abierta y en el espejo ya no encuentro tu mirada. No hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada. Y entre nosotros un muro de metacrilato no nos deja olernos ni manosearnos. Y por las noches todo es cambio de postura y encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más querías. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más querías.
Moi, je me souviens aussi quand je suis arrivée ici de me sentir étrangère. Comment mes codes, ils sont tous tombés et que je devais me réinventer en fait. J'étais nouvelle pour tout le monde, les gens ils étaient curieux. C'est une drôle de position, je trouve, d'être étranger. Est-ce que toi, tu te sens encore étranger ici à Barcelone?
Non. Non. Bon, ce qui se passe, c'est que. C'est vrai que la langue, parce que tout à l'heure tu en parlais, la langue quand même, c'est quand même un facteur intégrateur puissant ici. Et d'autant plus que si tu parles le catalan, quoi, ça te carrément ça te.
Bah là, t'as
c'est
plein
un
d'amis.
Raccourci,
hein.
Intégrateur, ouais. Mais déterminant en fait. J'arrive dans les endroits, je parle en catalan, les gens ils vont même pas me poser, ils vont même pas chercher à savoir. Maintenant, si je leur dis, perdona, escucha, quiero saber. Si... Là, ils vont te répondre, il y a pas de, mais ils vont dire tout de suite, ah, lui, il est pas de là, ou alors, comme tu dis, les gens, ils vont te demander, ouais, mais alors, tu viens d'où, tu fais quoi, tu fais ceci.
Ouais.
Alors que quand tu parles en catalan,
si
les gens.
Si tu parles en catalan, je trouve, on ressent que tout de suite, ils ont un sourire, ils se sentent respectés en tant que catalan, quoi.
Exactement.
Parce que ils sont tellement à passer de l'énergie à défendre cette culture.
Et tout de suite, dès que toi, quand ils voient que toi tu fais l'effort de. Ah, tout de suite, c'est.
Là, t'es leur ami. Il faut vraiment que je mette au catalan. Moi, je le comprends parfaitement. Enfin, je peux écouter les informations à la télé et tout ça. Mais ça. Oui, je me jette à l'eau.
C'est normal parce que t'as... En même temps, t'habites pas ici.
Ouais.
Moi, le catalan, ça m'a permis maintenant de comprendre l'italien et le portugais. Parce que c'est très semblable en fait.
Et il paraît que l'occitan,
il
y a des chez nous en arrière, j'ai des enfants qui apprennent l'occitan.
Ah, c'est ça,
Rosa
ça.
Me disait que l'occitan c'est très proche du catalan.
C'est très proche aussi, bien sûr. En fait, il y a une zone de la Catalogne qui parle occitan. La seule chose, c'est que Barcelone, en fait, je la sens pas comme ma ville encore. Je pense que je la sentirai jamais comme ma ville, en fait. Je veux dire, j'ai plus de sensations quand je retourne à Paris que quand.
D'accord, donc ton corps, ah ouais, c'est ça,
marrant,
c'est pas ta ville.
Non. Par contre, quand je prends le métro à Paris, tout de suite, c'est waouh.
C'est marrant parce que tu vois, moi, je viens pas tous les jours à Barcelone. Mais quand je viens ici, j'ai comme un coup au cœur, comme si, tu sais, tu rencontres un amoureux. J'ai un chispé dans le corps. Ça me fait vraiment comme si je me sens chez moi, quoi.
Ah oui.
Alors que Paris, non.
Ah oui,
mais j'ai l'impression que c'est par rapport à ce que j'ai vécu d'intense quand j'avais 20 ans.
Peut-être.
Ouais. Et c'est ça qui me. Je me rapproche de ça. Parce que là, je vois bien qu'elle a changé la ville et que je ne suis pas la même. Ouais. Mais j'ai toujours ce truc de. Oh, je suis tellement reconnaissante d'avoir. Qu'elle m'ait aidé à vivre ça à mes 20 ans, tu vois, ça.
Ouais.
J'ai ce truc.
C'est peut-être aussi que tu as ce recul de repartir chez toi et de. Moi, par exemple, cette sensation, c'est vrai que quand je pars à Paris pour voir ma mère, par exemple, c'est vrai que quand je reviens, j'ai une espèce de soulagement. J'arrive à l'aéroport, je me dis, ouais, il y a beaucoup plus de lumière ici. Je prends le métro, je me dis, ah ouais, quand même, c'est quand même plus tranquille.
Ouais.
C'est vrai que je me sens aussi chez moi ici. Bon, après, ça peut paraître, tout ça peut paraître paradoxal.
Non, mais c'est important ce que tu dis, ce truc de soulagement, c'est-à-dire que le corps, il se détend. Et je pense que ça, c'est un des signes où on peut se dire, je me sens chez moi.
Oui, bien sûr.
Tu vois.
Non, c'est clair.
Ouais. tout à l'heure, tu disais, ouais, maintenant, je me sens pas catalan, mais quand je viens ici, je me sens...
Voilà,
et tu n'as pas dit le mot. Est-ce que c'est intégré? Est-ce que c'est fondu dans la masse? Qu'est-ce que ça pourrait dire? Accepté?
C'est vrai que quand...
Je ne sais pas.
Le problème du mot intégration, c'est qu'on nous a bassinés en France avec
exactement.
Ça.
C'est très connoté, justement.
Ouais, c'est trop connoté maintenant.
Intégré, ça veut dire que tu viens d'ailleurs.
Oui, il a intégré...
Il a fait ses preuves, il parle la langue, voilà, c'est souvent par la langue.
Il parle bien, il a fait des études, il est gentil. Ça pour dire que pour les gens, j'étais quelqu'un d'ici, quoi.
J'arrive pas à trouver un autre mot. C'est vrai qu'intégrer, c'est complètement...
Bah surtout, c'est maintenant c'est revenu au goût du jour en France. Maintenant on dit, ouais, ça suffit pas d'être intégré, faut être assimilé.
Assimilé, digéré.
Ouais, faut changer de prénom, faut... je sais pas, c'est compliqué. Alors, je peux te donner le point de vue de Thomas, celui qui travaille avec moi là. Lui, il a 26 ans, ça fait un an qu'il habite à Barcelone. Et lui, il me dit qu'il a vachement de mal à se faire des amis ici. Qu'en façade, que quand tu fais la fête et tout ça, tout bon rollo, comment ils disent.
Ouais.
Mais que c'est difficile de se faire
de
des
maintenir,
amis.
De maintenir, ouais.
Après, moi, je lui dis, il y a un des aspects qui est très propre à Barcelone, on va dire, ou à la Catalogne, si on veut. C'est l'esprit famille, quoi. Ils sont très familiers. Donc, si par exemple, un des aspects les plus intégrateurs de cette ville, c'est les écoles. Parce que ça reste quand même des familles qui se mettent en relation. Donc, c'est vrai que se faire des amis ici, c'est pas aussi. C'est pas très facile.
Je pense qu'il faut du temps. C'est vrai que la première année, c'était beaucoup de. On sort le soir, on va faire la fête, après, on boit une bière. Et j'arrivais pas à rentrer en profondeur avec les gens, de tisser vraiment des liens. Mais déjà, il y avait la barrière de la langue, parce qu'il faut du temps pour bien s'exprimer. Mais par contre, une fois que j'ai... les personnes avec qui j'ai habité, j'ai toujours des contacts avec eux, en fait. On a partagé notre intimité. Et là, c'est vraiment la famille.
Donc voilà. Ouais, bon, en tout cas, en résumé... Barcelone, c'est une ville magnifique. On y vit très bien.
Oui, voilà. Comment tu qualifierais
Non. Honnêtement, c'est ouais. Très, très bien. Par contre, il faut aller au-delà de la grande ville en bord de mer où il fait bon vivre, où on a une plage et tout ça. Non. Barcelone, c'est plus que ça. C'est une ville très riche en histoire. Et surtout, il ne faut pas regarder seulement vers la mer. Il faut regarder derrière. Derrière, il y a plein de choses à découvrir.
Oui, puis pas venir en consommateur, entre guillemets. Non. C'est la vivre. La vivre,
Rencontrer les gens, essayer de comprendre un peu leur caractère aussi.
Se caler sur leur rythme, je pense.
Et après, savoir que derrière Barcelone, il y a tout un pays qui est magnifique, quoi, qui mérite d'être non seulement la Catalogne et aussi le reste de l'Espagne. C'est vraiment un pays magnifique, l'Espagne en général. Vraiment. Ils ont vraiment un bon fond.
Donc, voilà. Ouais, c'est les villes du Sud.
Les villes du Sud, exactement.
Merci Karim.
Merci
à bientôt.
Stéphanie, à bientôt.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.
Je voudrais te poser une question, Joanne, mais déjà je voudrais expliquer un petit peu qui tu es. Nous, ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait... Moi, j'avais 20 ans quand je suis venue à Barcelone et vous avez été un petit peu ma...
Il fait très peu de temps, ça.
Ça fait très peu de temps. Bon, là, on peut dire que ça fait une trentaine d'années quand même. Mais vous avez été un peu ma famille d'accueil sur cette terre catalane. En fait, je m'aperçois que je ne te connais pas tant que ça. Moi, ce que je connais de toi, c'est que tu es traducteur, écrivain, lecteur, metteur en scène aussi. Tu as fait des adaptations pour des pièces de théâtre.
J'écris des pièces de théâtre.
Voilà. Ce que je sais aussi, c'est que tu parles... Je ne sais combien de langues tu parles.
Une demi-douzaine, je crois.
Une demi-douzaine, voilà. Vous m'en mettrez une demi-douzaine d'œufs. Voilà, tu es quelqu'un qui a accès au monde entier puisque tu fais des traductions. Et moi, je me rends compte que, en fait, ton monde à toi, moi, je le connais pas. Je viens d'apprendre que tu venais d'Hospitalet, en fait. Tu... T'es pas née à Barcelone. Je voulais savoir comment t'es arrivée ici. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi?
L'Hospitalet, c'est la banlieue. Mais des fois, la banlieue est très, très loin du centre. Pas au point de vue matériel. Ça fait quelques kilomètres seulement. Mais au point de vue social. Et si l'on pense à la socialité concrète qu'est celle de la culture, hein, des fois cette distance est énorme. Alors j'ai dû la franchir à un moment donné. Jusqu'à mes 30 ans, un peu plus même, toute mon activité, ça a été en banlieue. Et là, j'étais quelqu'un. Parce qu'on est quelqu'un. Mais tout d'un coup... Il y a une grande rupture dans mon petit monde. C'est une rupture qui a eu avec mon groupe culturel, avec mon groupe politique, avec ma famille même, puisque je me suis séparé de ma femme. Je me suis éloigné de mon premier fils. Et j'ai franchi les 10 kilomètres qui me séparaient de Barcelone. Et alors j'ai commencé à écrire dans des journaux des critiques de théâtre. Parce que j'avais une amie qui faisait la critique théâtrale et qu'à cette époque, elle cherchait aussi à changer sa vie, à se réinventer comme écrivaine et tout ça. Et elle devait laisser, parce que c'était une femme assez importante, une Argentine, qui est arrivée à Barcelone en pleine dictature, et qu'au bout de 2 ans, était déjà militante clandestine indépendantiste catalane. Non ? Dans une chose qu'on appelait le PSAM, le Parti Socialiste de Libération Nationale. Patricia Ravancho s'appelait cette dame. Il est morte trop jeune, tristement. Le cancer de... Je me rends compte que dans mon monde de connaissances féminines, le cancer de sein a été terrible.
Maria Aurelia Camagne. Tu as perdu beaucoup de femmes.
Oui, et beaucoup d'amis. Comme une malédiction, le cancer de sang. Bon, j'ai commencé à écrire dans des journaux et à m'effrayer en petit chemin.
Est-ce que, à travers ce. Parce que tu aurais pu faire plein d'autres travails, mais de travailler en tant que journaliste, on va dire, c'est ça, hein?
Oui.
Tu t'étais un peu porte-parole de. D'un groupe, de la réalité sociale.
À 18 ans,
tu,
oui.
Tu te sentais porte-parole de...
À 18 ans, oui.
Ouais.
À 32 ans, je tenais que le porte-parole de moi-même.
De toi-même, et tu voulais être payé pour faire vivre à Barcelone. Oui. C'est de la banlieue, tu es monté à la ville, quoi.
Oui, c'est
à
ça.
À la grande ville.
Oui, ouais, oui, c'est ça.
Comment tu as fait pour te faire reconnaître, entre guillemets, comme ce que tu dis qu'à Hospitalet, on te connaissait? Puisque c'était une petite ville, comment tu as fait pour te faire
connaître?
C'était
ça. Quand tu commences à écrire dans un journal et à signer tes travaux, alors tu as déjà une certaine projection publique et qui te fait connaître. Grâce à ça, par exemple, j'ai commencé à... Bon, la première chose importante qui m'est passée à Barcelone, c'est vraiment que j'ai connu Rosa. Alors...
Ah. Ben. Rosa, tu l'as rencontrée à Barcelone?
Oui.
Elle était à Barcelone déjà.
Oui. On s'est connus dans un cinéma du Paseo de Gracia.
Ah là.
grâce à une amie qui a fait de...
L'intermédiaire.
Ouais, l'intermédiaire. Ouais, ouais.
Bon, là, je change un petit peu de conversation, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est là où on décide de s'installer et de vivre sa propre vie, parce qu'il y aurait tellement de possibilités. Et en fait, vous, c'est anecdotique, mais quand même, vous êtes... à chaque fois que je viens vous voir, vous êtes dans une rue différente qui est parallèle l'une à l'autre. Il y a eu Caillé, alors je ne sais plus dans l'ordre, mais il y a eu Brook, il y a eu Girona, et maintenant c'est Belén. Ouais. Voilà, Belén. Toi, plus que Barcelone, en fait, c'est ton quartier qui est,
oui, oui,
qui est important, non ?
On n'a changé jamais de quartier. Et Rosa, quand on s'est connus, elle venait d'acheter. Elle venait aussi d'une rupture matrimoniale. Mmh. Et elle venait d'acheter un appartement que tu as connu à la rue Brook. Et alors, on s'est installé là. Et après, par des différentes histoires, on n'a jamais changé de quartier. On a seulement changé de rue.
C'est ça.
On s'est déplacé de 100 mètres à chaque fois.
Mais c'est intéressant parce que quand tu ouvres la fenêtre, tu voyais l'immeuble futur où tu allais t'installer.
Oui. C'est ça. On ne le savait pas, mais ouais, c'était comme ça.
C'est ça.
On ne le savait pas.
Donc la prochaine rue, ça sera laquelle ?
La prochaine rue, c'est le passage de Saint-Jean.
Passage de Saint-Jean. Ouais. Oh, c'est classe quand même, passage
oui.
de Saint-Jean. Et... Hein.
Quand on arrivera à la centaine, comme la maman de Rosa, peut-être on sera ouais. déjà dans la rue suivante, je ne sais pas.
Alors toi, tu t'appelles Joanne, bientôt tu habiteras au passage Saint-Joanne. Ton fils s'appelle Joanne aussi.
Oui, ma fille Joanna.
Et ta fille Joanna. Mmh. Et là, je voulais en venir à vos enfants, en fait, qui ont choisi de ne pas rester vivre à Barcelone. Tu peux me dire, chaque enfant, où est-ce qu'ils sont installés pour l'instant ? Ça va peut-être changer, mais...
Mon aîné, il est près
donc,
de sa mère,
Joanne.
Qui est Joanne, mm-hmm. qui vient d'avoir 48 ans. Il est aux Canaries, à l'île de Lanzarote. Joanna, notre fille, à Rosa et à moi, elle est en France, elle est en Ariège.
Oui, elle n'est pas loin de chez moi.
À côté
moi.
De toi.
Voilà, hein. Pas loin de Saint-Girons.
Et le petit, qui n'est pas si petit que ça, Adrien, qui a aussi une maison à Saint-Girons. Par l'instant, il est au Mexique.
C'est quoi leur mouvement vers vous et aussi vers Barcelone ? Parce qu'ils sont quand même nés ici, tous.
Oui.
Ils sont nés à Barcelone. Mais
ils appartiennent à une génération qui est la première génération qui a des difficultés à continuer à s'installer à Barcelone. Tu l'as vécu déjà, ça. Mm. Tu as vécu la montée des prix énorme qu'il y a eu à Barcelone. Et après à côté de ça, tout ce phénomène de gentrification qui se produit dans beaucoup de villes du monde, à Barcelone, est aggravé parce qu'il y a eu une énorme migration, disons-nous, laborale. Et à côté de ça, le nouveau nomadisme de l'époque digitale, des professions bien payées, de tout le monde qui désire s'installer à Barcelone, parce que Barcelone est très belle, parce qu'il y a un climat magnifique, parce que les tapas, parce que la fiesta, parce que la tata, parce que la papa... Et alors, tout ça fait que les prix des appartements soient faramineusement chers et ça difficulte énormément l'établissement de la génération de nos enfants à Barcelone.
Moi, ouais, je comprends.
Alors, disons-nous, il y a un mouvement. Pour notre génération, la ville a été encore un pôle d'attraction et pour la génération de nos enfants, c'est un pôle d'expulsion presque. C'est-à-dire, il y a eu une époque centrifuge, centripète, et maintenant, je crois qu'on vit une époque...
Extrapète, comment on dit
centrifuge.
Centrifuge, c'est ça.
Centrifuge,
d'expulsion naturelle.
Elle expulse, elle expulse les enfants qui ont rêvé peut-être de vivre un peu mieux que ses parents. Ils n'aiment pas beaucoup Barcelone, nos enfants.
Qu'est-ce qu'ils lui reprochent ?
Ça. Ça, que leur rend très difficile de vivre.
Voilà, qu'ils n'ont plus leur place.
Non. Si nous avons la belle idée de mourir et leur laissons un héritage, peut-être ils pourront s'établir s'ils le désirent. Mais il faut que mourir, que c'est une chose que, comme idée, ça ne me plaît pas trop.
Bah, c'est pas cool, ça, non ?
Non, c'est pas cool.
Mais oui, tu veux dire que si on laisse une place vide, entre guillemets, à ce moment-là, les enfants, ils pourront peut-être envisager de revenir.
Et sinon, c'est compliqué, c'est difficile.
Après, je pense, bon, pour connaître tes enfants, je pense qu'ils avaient aussi envie de s'expérimenter eux-mêmes à l'étranger.
Ah oui, ça sans
doute. Et de découvrir, ils ont vraiment, ils sont libres dans leur tête. Oui, oui.
Ça occupe une partie de la vie. Et après, il y a des raisons, disons-nous, ce que j'ai dit, centripètes, qui te font revenir à un certain centre. Mais je ne sais pas. On verra. Et... Et le rêve de futur peut-être ne passe pas par ici. Quand nos enfants étaient des enfants, quand nous habitions à l'appartement de Brooke.
Tu veux dire, oui, quand j'étais jeune aussi.
Oui.
Parce que je les gardais, tes enfants. Ouais.
À cette époque-là, ils jouaient sur le même étage du bâtiment. Il y avait trois familles qui avaient des enfants du même âge, à peu près. Mmh. Ils ont joué ensemble. Et après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je veux dire que c'est une génération que s'ils ont une bonne formation académique, ils ont allé chercher à se gagner la vie très souvent
ailleurs.
Mm-hmm. Barcelone n'est pas une ville aimable, à mon avis.
Tu trouves, moi. Mm. N'est pas une ville aimable. T'aurais aimé qu'elle accueille différemment?
Oh, j'aurais aimé que les villes soient... en général accueillantes, elles le sont de moins en moins. Ce n'est pas un problème seulement à Barcelone.
Mais voilà. Je pense que là, en fait, on parle du temps qui passe aussi. Et c'est vrai que moi, les souvenirs que j'ai d'il y a 30 ans, ils sont dans ma mémoire, dans mon corps. Mais je vois bien que la ville, elle a changé.
Oui, elle a changé.
Donc, et l'accueil, moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de touristes. Le commerce a changé, la technologie, on traverse. Avant, il n'y avait que les voitures à faire attention. Maintenant, il y a énormément de bicyclettes avec les Uber, les caisses jaunes derrière, donc ils roulent super vite, les trottinettes. Tout va de plus en plus vite. Donc forcément, je trouve que c'est un petit peu moins accueillant. C'est-à-dire, en tant que piéton, par exemple, je sens que j'ai un...
Écoute, et pas pour la trouver même place, une chambre dans un appartement de Barcelone, ouais. Ça peut coûter 500-600 euros, chambre.
C'est ça. Ouais, dans une espèce de colocation, tu veux dire, comme j'habitais avant.
Alors, écoute...
Ouais, tout a augmenté aussi.
Et il y a beaucoup de salaires qui sont à la limite sur les 1000 euros. Alors, si tu dois payer la moitié, plus de la moitié de ton salaire pour une chambre, pour loger, tout simplement, on ne peut pas dire que la ville soit accueillante.
Voilà, c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, on est au niveau budget, l'économie, et ça, c'est... un des points qui fait que c'est pas accueillant pour l'homme. Enfin, je veux dire, si tu n'es pas dans la fourchette des prix, t'as pas ta place, quoi.
Oui, c'est ça.
Et donc, ça peut faire partir des gens qui sont catalans à la base, ailleurs de leur ville.
Ces processus de gentrification, ça, c'est un processus qui se donne partout. Partout. Les villes qui étaient un endroit où les gens vivaient sont devenues un endroit d'investissement immobilier. On parle d'actifs immobiliers. Et c'est incroyable la vitesse avec laquelle la ville est en train de changer.
J'entends un petit peu dans ce que tu dis, il y a quand même, puisque tu as connu les débuts, tu as connu un autre visage de la ville. Et en fait, l'évolution a fait que des fois, ce n'est pas une transformation, c'est presque une déformation.
Il y avait un certain... Au moment des Jeux Olympiques, c'est le moment où on commence l'essor, disons-nous, de la nouvelle Barcelone.
Alors c'est quoi l'année déjà, 92?
92. La nouvelle urbanisation de la ville olympique et tout ça, en plus c'était dans l'idée de continuer la logique de l'Eixample de Barcelone et l'amener jusqu'à la mer, en occupant des terrains qui étaient anciennement industriaux, très dégradés, et de créer une nouvelle ville, mais qui était bien connectée avec la vieille ville et avec les vieilles façons de vivre dans la ville aussi. Mais ça a été une impression qui a duré très peu. Mmh. Alors, à côté de ça, tu vois déjà les tours. Heureusement, il y a des normes qui ne permettent pas la construction des gratte-ciels énormes.
Qui limitent la hauteur.
Qui limitent la hauteur, c'est vrai. Parce qu'au fond, cette ville laïque qui est Barcelone, et a dans son centre cette construction qui vient avoir les touristes de tout le monde, qui est la Sagrada Familia, qui c'est une construction religieuse pour les péchés que la ville a commis au début du XXe siècle, dans la lutte des ouvriers contre le capital. Il y a un ouvrier avec une bombe à la main dans la vieille façade de la... On ne montre pas ça généralement aux touristes, mais il est là, avec la bombe à la main.
Et du coup, tu dis que les immeubles, ils ne devaient pas dépasser, enfin, ils devaient rester en dessous, c'est ça, de la Sagrada?
Oui, c'est ça. À ces moments-là, la bourgeoisie, c'est-à-dire il y a plus d'un siècle, a décidé que dans ce qu'on appellerait le skyline de Barcelone, le pont le plus élevé, devait être là. Croix dans la Sagrada Familia, c'est-à-dire un gratte-ciel chrétien au centre de la ville laïque. C'est une ville d'énormes contradictions.
D'accord, c'est vrai que presque on dirait que Barcelone elle s'est construite autour de la Sagrada.
Oui, à la fin, c'est l'image que l'on veut, que l'on veut donner.
Il y a Rosa qui vient de nous rejoindre à la table et j'aimerais bien... Mais si, Rosa, elle fait non avec son doigt. Rosa, juste une question, parce que toi, tu n'as pas perdu ta voix. Alors, je tourne le micro vers Rosa. Hop. En fait, Rosa, j'ai une question à te poser. Vous voyagez souvent avec Joanne, vous êtes souvent partie de Barcelone.
Ouais.
Combien de fois dans l'année, grosso modo, vous partez de Barcelone?
Pas beaucoup.
Pas beaucoup, normalement, on part un mois en Grèce. Avant, c'était un mois et demi, un mois... Et après, moi, on fait des petits voyages pendant l'année. Hein. C'est pas très...
Vous allez voir... On
va voir notre fille à l'Ariège. Et après, on va... J'allais voir mon fils au Mexique, mais bon, c'est pas...
On va voir au mois d'août les amis d'Avignon.
Les amis d'Avignon, ah oui, ça c'est toujours ça.
Ça c'est obligé.
C'est obligé, on passe une semaine à Villeneuve-les-Avignon. Avec la famille française.
C'est un
rituel depuis 40 ans.
Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ces voyages, ils sont, ça vous fait de l'air? Est-ce que c'est pour partir de Barcelone? Est-ce que vous partez de Barcelone parce que vous en avez un trop plein?
Non, c'est qu'on a vécu toujours là. Alors, quand tu as vécu toujours dans la même ville, tu as envie de partir un peu. Moi, j'aurais aimé bien vivre 2 ans, 3 ans dans une autre ville, dans une autre partie du monde, mais je n'ai pas eu l'occasion. Alors, on a besoin de sortir un peu pour prendre l'air et revenir. Alors, tu trouves, oui, c'est bien parce qu'on habite un petit quartier, centre-ville, mais qui a un peu tout, que c'est agréable, on se trouve bien. Oui, le vrai, c'est ça, que dans notre quartier, c'est un quartier comme un petit village, là, non?
Donc en fait, j'entends que tu pars pas pour, parce que tu en as marre de Barcelone. Juste pour aller voir les amis.
Pour revenir avec envie, non? Reviens en ville, tu as envie de rentrer à la maison.
Ça. Tu pars
reviens, si, c'est ça. Oui.
Toi, tu fais de la peinture, donc c'est aussi, j'imagine, pour nourrir tes tableaux.
Oui, sinon, si tu n'as pas un peu de rentrée de l'extérieur ou des endroits qui ne sont pas le quotidien, si tu n'as pas de...
Si tu ne trouves pas,
parce que ma peinture est un peu symbolique, pour avoir des repères
d'autres choses. Qui t'intéressent visuellement, ou des manières d'être différentes.
Après, je regarde beaucoup, j'aime bien regarder, je regarde partout.
Ça, c'est vrai, je suis témoin.
Je regarde.
T'as plusieurs yeux, dans le dos, devant.
Moi, je suis
capable de traverser au rouge, personne t'écrase.
Je tombe par terre parce que je suis toujours en train de regarder où je ne dois pas. Et c'est ça. Si. Des petits détails, les gens, comme ils sont obligés de travailler du textile aussi, comme ils sont habillés. Et comme maintenant, la mode, elle a beaucoup évolué. Et tout le monde, chacun fait ce qu'il veut avec la mode, non? Construit son personnage. Alors, c'est amusant de voir ce que les gens font. C'est comme des installations qui bougent.
Vivantes, ouais, c'est vrai.
C'est ça.
Merci Joanne, merci Rosa.
Pas de quoi.
Si.
Se dansa net i fort dels himnes i flors i enciams d'ovella no ple peus al tot emocionat. el pagès del riu ens canta, fent memòria embolicant, amb cordill de seda i traça, cinc refrens que el sap d'espai. Mira el cel, ulls de savi plorant, amb un riure gegant infant buscant. Ell no vol que el món s'acabi mai, mai. Crida ben fort, confia en mi que ets estimant.
Barcelone est mystique, extravagante, vivante et surprenante. J'ai cette relation avec elle, une sorte de passion incompréhensible et sensible. Quelque chose qui me guide vers elle, une magie envoûtante. Pour le retour en Ariège, je choisis un covoiturage. Il me donne rendez-vous juste à côté de la librairie où Karim travaillait et dont il parle, exactement à l'adresse où vivent les parents d'Anna. Je ne sais pas vous, mais moi j'y crois.
Confia en mi que ets estimat.
Bon, bah salut Eva, nous on est donc dans la voiture, on est en train de covoiturer pour le retour en France. Toi, ça fait combien de temps que tu habites à Barcelone ?
Ça fait 3 ans que j'habite ici. Je suis partie de Montpellier à mes 19 ans et maintenant j'en ai 22. Et on y est très bien. Je m'y fais pas mal. Je suis partie pour les études et c'est des études d'ostéopathie animalière. Bah, comme on en a parlé tout à l'heure, la vie ici est meilleure sur tous les points. Seulement le fait de ne pas voir les proches, c'est le seul point négatif que je trouverais. Franchement, on a les gens, c'est les gens bien, c'est le soleil, la belle vie. En plus, je suis dans un environnement où j'étudie dans la campagne, dans un centre équestre. Donc, on pratique sur les chiens, sur des chevaux, sur les chevaux du centre équestre.
Est-ce que tu te sens plus proche de cette culture catalane que de la culture française ?
Alors oui, mentalement, les gens sont plus ouverts, plus sociables, etc. Mmh. Et c'est plus quelque chose qui me ressemble et qui me correspond. En tout cas, je me sens plus à ma place ici.
Plus à ta place, plus à l'aise.
Exactement.
Toi, tu as du sang catalan ou des origines catalanes, non ?
J'ai ma famille qui est espagnole. Du côté de ma mère, ma grand-mère est espagnole. Et c'est tout. Je suis française.
Mais du coup, ce qui t'a fait venir ici, c'est les études où tu avais... Pourquoi tu as choisi ce pays ? Tu aurais pu le faire ailleurs ?
Ben, c'est un institut français qui est basé en France. Il y en a plusieurs en France, dont un en Espagne. Et je me suis dit, quitte à partir, autant changer de pays complètement, changer de vie. C'est ce qui m'anime, en fait. Changer d'environnement comme ça, du tout au tout. On a tendance, en tant qu'humain, à avoir peur du renouveau. Mais je le vois plutôt comme toujours du positif.
Tu as appris des choses sur toi-même ici en tant qu'étrangère ?
Comment dire que j'ai complètement changé ma manière d'être et de voir les choses. Avant, j'étais assez renfermée sur moi-même, timide, etc. Et je me suis totalement ouverte à ça. Quand je dis à mes amis, aux personnes que je viens de connaître, qu'il y a 3 ans, j'étais timide comme pas possible, j'avais du mal à engager la conversation avec les gens, etc.
Ouais.
Là, c'est tout le contraire.
Ils c'est vrai.
Pas.
Ah, ça t'a métamorphosé,
ah,
en
oui,
fait.
Ah oui, carrément.
Ouais.
Bah, je trouve qu'on évolue jamais plus que quand on voit des nouvelles choses, quand on change d'endroit, en fait.
Parce que du coup, on est obligé de s'adapter en fait à quelque chose qu'on connaît pas.
Exactement.
Moi, j'avais cette sensation.
De cette manière.
Oui, c'est ça. On se découvre. On est d'être nouvelle à chaque fois, quoi, chaque jour.
Carrément.
Ouais. Merci Eva. Ciao.
confia-me que te estimar.
C'était Garder les yeux ouverts, une émission socioculturelle proposée et réalisée par Stéphanie Andrès. Tous les mercredis et samedis, entre 17 et 18 heures, et en rediffusion pendant un mois. À réécouter en podcast sur le site de radiokipik.org. K-I-P-I-K.